Bonjour à tous et bienvenue dans
La matinale infernale.
Notre équipe de chroniqueurs amateurs est en forme ce matin. Je suis Aurore et nous allons passer la prochaine demi-heure tous ensemble. Ça s'annonce explosif ce matin. Allez, je vous les présente une nouvelle fois. Si vous nous rejoignez, avec nous, nous avons Liam, notre jeune chroniqueur transgenre qui continuera à dérouler les lettres de l'alphabet LGBTQ+++++.
Salut.
On a aussi Naël, notre petit chroniqueur sportif.
Bonjour.
Ben nous présentera sa chronique musique sur les racines du rock.
Hello.
The Monitor continuera d'émerveiller notre regard sur le monde avec sa chronique pêche nature.
Salut tout le monde.
Camille prend soin de nous ce matin encore.
Coucou.
Et Aimée nous embarquera avec elle une fois de plus dans ses trains de vie.
Bonjour.
Eh bien, nous sommes au complet. Je vous propose de commencer à la fraîche avec The Monitor. Avec le Monitor, vous deviendrez
plus fort.
Bienvenue ce matin pour la nouvelle chronique des idées reçues sur la pêche de loisirs. Alors, on commence avec un beau cliché que j'entends très souvent. Je ne peux pas pratiquer la pêche car je n'ai pas la patience d'attendre derrière une canne. Eh bien, premièrement, qui vous a dit qu'il fallait forcément attendre? Parce que si l'attente ne vous plaît pas, bonne nouvelle, il existe des pêches de recherche active et donc très itinérantes. Parmi elles, la pêche des carnassiers en mode pêcheur des rues, street fishing, dans Compiègne par exemple, ou encore la pêche à la mouche, où on parcourt les rivières et les plans d'eau sur plusieurs kilomètres, comme Brad Pitt dans le film de Robert Redford, et au milieu coule une rivière, tout en observant attentivement et en traquant sa cible, dans ce cas-là la truite. De plus, lorsqu'on envoie sa soie en l'air, on utilise presque tout le haut du corps, bras plus épaules, et c'est un engagement physique permanent ou presque. Ceci va éloigner votre crainte de pêche passive et d'attente. Croyez-moi, rien qu'avec ces deux pêches, street fishing ou carnassier, ou encore pêche à la truite, à la mouche, vous n'aurez pas le temps d'attendre. Les mots d'ordre seront plutôt recherche, observation, lancer, approche et remise en question. Si vous aimez compter vos pas avec une montre connectée, vous serez souvent surpris de dépasser régulièrement les 10 000 pas et sans vous en rendre compte. Plus vous serez concentré dans votre recherche, plus vous aurez l'impression que le temps s'arrête. Si vous tentez l'expérience avec un ami, vous vous motiverez aussi dans la traque de votre poisson objectif. Vous partagerez votre réflexion, votre approche. Attention, je ne jette pas la pierre à ceux qui imaginent qu'on passe son temps à attendre à la pêche. Et pour les comprendre, je vais expliquer d'où provient cette image. La pêche d'attente que vous avez en tête et imaginée, c'est celle pratiquée par un vieux monsieur assis derrière sa canne et qui ne bouge pas. On ne le voit pas remonter de poisson d'ailleurs. Cette pêche, c'est la pêche au cou. Eh bien, première chose, s'il ne bouge pas, c'est soit qu'il est mort, soit qu'il pratique mal sa technique. Et rassurez-vous, 9 fois sur 10, il n'est pas mort. Mais en fait, il pratique mal, car même à la pêche au cou, il ne faut pas rester dans l'inaction et attendre, il faut toujours rester à la recherche et changer des paramètres, être actif avant de trouver la formule et faire valser les gardons en l'air, preuve de réussite et d'action du pêcheur au bord de l'eau. Des exemples de paramètres techniques, refaire sa ligne si les poissons sont difficiles, utiliser des hameçons plus petits et du fil plus fin, changer son poste de pêche, augmenter sa distance de pêche ou se déplacer de quelques mètres simplement sur la berge, ou même encore refaire un mélange d'appât, l'amorce, le gâteau du poisson, comme je dis à mes jeunes élèves. Vous comprendrez maintenant la différence entre solliciter simplement sa patience et avoir l'impatience de trouver la solution, trouver la pêche comme on dit. Alors vous voyez, tout le monde peut pêcher. Let's go fishing. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau cliché sur la pêche.
Haha, let's go fishing. Tu crois pas si bien dire, The Monitor. Puisqu'on est tous en forme ce matin, je propose qu'on reste dans le sport actif avec Naël, notre petit chroniqueur sportif.
Ouais, je pète le feu ce matin. Alors je vais vous parler d'une nouvelle technique à propos du football. Les dribbles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un dribble? Une dribble, c'est une manière de faire face à l'adversaire et de le feinter pour le dépasser. Il existe donc plusieurs façons de le faire. On commence tout de suite avec un geste qui n'est pas des plus faciles, croyez-moi. La virgule, elle consiste à faire croire à son adversaire que l'on va d'un côté et au dernier moment, on part tout simplement du côté adverse. Elle était souvent pratiquée par Ronaldinho et Neymar. Ensuite, nous avons le crochet. Il s'agit de déplacer le ballon vers sa droite ou sa gauche pour ensuite réaliser soit un tir, une passe ou une virgule, justement. C'est le geste fétiche de Ousmane Dembélé. Le coup du sombrero, lui, consiste à faire glisser le ballon vers l'arrière, puis à le lever assez haut pour qu'il lobe l'adversaire, pour ensuite venir le chercher derrière celui-ci. Neymar est le maître de ce geste technique. Un terme que vous connaissez peut-être mieux, la talonnade. C'est le fait de faire glisser le ballon derrière soi, puis de le toucher avec le talon. Mais il faut être vigilant au fait que l'adversaire ne voit rien passer. Il n'y a pas vraiment besoin d'être pro pour ce dribble-là. Il est même accessible aux débutants, alors que certains autres vous demanderont plus de travail. Nous avons également le passement de jambes. C'est quand on fait des sortes de ronds autour du ballon avec ses jambes pour amadouer son adversaire et ensuite enchaîner par un des dribbles que je viens de vous citer avant. Ronaldo utilisait beaucoup ce geste avant sa blessure au genou qu'il a malheureusement contraint à limiter ses dribbles. Un autre dribble, le double contact. Il consiste à faire rebondir le ballon deux fois entre ses pieds, puis, dans les cas les plus fréquents, de faire une passe. Ce geste est tellement simple qu'il est à la disposition de tous. La roulette, elle consiste à faire le tour de son adversaire tout en restant muni du ballon. Le maître de ce trick, tout le monde le connaît, c'est Zinedine Zidane, notre zizou national. Pas une chronique ne passe sans qu'il soit mentionné à un moment ou un autre. Je termine avec deux dribbles qui vous diront sans doute quelque chose. Le petit pont, qui est le fait de faire passer le ballon entre les jambes de son adversaire et de le récupérer de suite. Et son grand frère, le grand pont, qui consiste à faire passer le ballon sur le côté de son adversaire, de passer du côté inverse pour ensuite le récupérer et éliminer son adversaire. Je récapitule tous les noms de dribbles que nous avons vus. Si vous voulez aller chercher des images sur YouTube de toutes ces feintes, nous avons la virgule, le crochet, le coup du sombrero, la talonnade, le passement de jambes, le double contact, la roulette et enfin le petit et le grand pont. Merci pour votre attention et on enchaîne.
Oh Naël, on enchaîne. Moi, c'est bon, hein, je suis épuisée là. Qu'est-ce que vous diriez de vous poser tranquillement dans le train avec Aimé là ? Ça peut être cool, hein, ça va nous reposer après tous ces dribbles.
Alors, bonjour. Les trains ont toujours une histoire à raconter. Aujourd'hui, Compiègne s'éveille, il est 7h30. Le bus me dépose sur mon point de départ, la gare de Compiègne, rive droite. Je composte mon billet en route vers ce nouveau voyage et je remarque étrangement que le hall est presque vide. Le rideau du relais est temporairement baissé. Un homme à chapeau et vêtu élégamment, comme venu d'un autre temps, me questionne. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer l'heure ?» Je lui réponds aimablement que je ne dispose pas de montre. Il me répond. « Il se trouve que ma montre à gousset m'indique 7h. L'aiguille s'est arrêtée. » Effectivement, nous constatons ensemble que le temps est comme suspendu. Il me remercie et s'en va en me saluant de son chapeau. La météo extérieure est quant à elle plutôt brumeuse aujourd'hui sous ce ciel automnal. Et me voici en route une nouvelle fois vers ma destination, Paris, train direct, sans arrêt. Soudain, je ne reconnais plus la gare. Où suis-je ? Sur le quai, je perçois une certaine agitation, tellement le quai fourmille de monde. Je viens de faire un bond dans le temps. Suis-je bien encore au XXIe siècle ? C'est évident, l'espace ferroviaire stocke le temps. Les gares peuvent même devenir des musées. Et souvenez-vous de la magnifique gare d'Orsay à Paris. Des dames corsetées font leur apparition. Je remarque un pavillon d'accueil situé entre les salles d'attente et un buffet qui fait ressurgir du passé une palette de nuances, une sédimentation à la fois sonore, lumineuse, olfactive. Signe de l'arrivée d'un invité de marque. Je me souviens de mes livres d'histoire. En septembre 1901, la gare de Compiègne avait été spécialement aménagée pour la venue du tsar Nicolas II, pour son bref séjour officiel au palais de Compiègne. D'ailleurs, sachez que Compiègne a été une des premières cités de l'Oise desservie par ce mode de transport révolutionnaire qui a tant bouleversé la géographie française au XIXe siècle. J'aperçois alors le chef de quai. Un détail attire mon attention. Son sifflet à la bouche, il annonce l'arrivée imminente du train. Mesdames, Messieurs, le train en provenance de Dunkerque et à destination de Paris va entrer en gare voie 2. une dame, prénommée Olga, d'origine russe, déjà présente sur le quai de la gare, s'aperçoit de mon égarement. Comme je connais quelques mots de russe, je comprends qu'elle cherche à me guider vers mon train pour Paris. Lettre repère d'accès aux voies pour s'orienter, voie 2, lettre O. Olga et moi, nous nous frayons un chemin dans la foule, entrons dans le train et parcourons les wagons. Les passagers me dévisagent, étonnés de ma tenue vestimentaire qui tranche pour l'époque. L'ambiance y est telle que l'on se croirait dans l'Orient Express. Intérieur tapissé, luxueuse décoration, composée de panneaux de pâte de verre au motif de naïade, avec une touche art déco. Un samovar d'eau chaude en libre service est même à disposition dans chaque wagon. Je lui explique que je viens d'une époque plus lointaine. Elle comprend alors, à mon air hagard, qu'elle m'explique qu'elle est à Compiègne pour assister à la venue du couple impérial russe. Elle se rend également à Paris. Elle pioche dans ses souvenirs et évoque son voyage dans le train mythique du Transsibérien. Il traversait la Russie, la Mongolie et la Chine. Je lui demande si elle sait que Compiègne organise, enfin à l'époque, des festivités littéraires et artistiques, connues sous le nom de Série de Compiègne, auxquelles participent écrivains et artistes tels Prosper Mérimée ou encore Jacques Offenbach. Je m'assoupis un instant, et lorsque je me réveille, tout remonte à la surface. Dans la voiture, le décor luxueux a disparu. Un jeune garçon bien sympathique assis à côté de moi me demande si je connais la différence entre une virgule et une passe. En même temps, un peu plus loin, j'entends la sonnerie de portable d'une chanson de Chuck Berry près d'une personne qui embarque tout un attirail de pêche. Où suis-je ? Encore abasourdi et perdu, une dame me fait remarquer gentiment que j'aurais besoin de vitamines. Je prends note du conseil. Elle est accompagnée d'une jeune femme arborant un superbe sweat multicolore, tandis que mon voisin d'en face répète de sa jolie voix une chanson pour son concert. J'entends alors la conductrice du train détailler au micro le chemin déjà parcouru.
Nous entrons en gare de Paris-Gare du Nord, terminus de ce train.
Ah, je suis bien revenue à mon temps présent. Je voudrais vous dire « Spasiva Olga » pour avoir été une passagère de mon train.
Waouh, merci Aimé de nous avoir fait un petit clin d'œil à tous dans ta chronique, c'était trop cool. J'espère que les auditeurs ils l'ont remarqué aussi et qu'ils ont reconnu tout le monde. Bah, je vous propose, pour se remettre de ces émotions et de ce voyage dans le temps, qui n'aura pas eu besoin de DeLorean cette fois, puisqu'on est passé par la gare, d'écouter Let's Go Fishing de Joe Stump pour gagner un petit peu d'énergie au bord de l'eau, n'est-ce pas, Monitor ?
Eh oui.
Allez, c'est parti.
Let's go fishing, let's make a day. I got the pole, you got the bait. It's so pretty, I'd sure hate to waste this time. We'll find us a shady little spot, not too cool, not too high. And kick on back till we feel a tug on the line. Nowhere to go, nothing to do. Just a whole lot of fishing, me and you. No one to see, nothing to say. We won't stop till we ain't done nothing all day. Let's go fishing,
let's go fishing.
I'm on a mission,
I'm on a mission.
It's so pretty, I'd sure hate to waste this chance. We'll find us a shady little spot, not too cool, not too high. Perfect for a little fishing and romance. Oh yes. So inviting, nothing quite as exciting as a little fishing when they're biting. Let's go fishing,
let's go fishing.
I got a pole,
I'm on a mission.
It's so pretty, I'd sure hate to miss this chance.
Land the biggest fish.
We'll find us a shady little spot, not too cool, not too high. Perfect for a little fishing and romance. Let's go fishing.
Let's go fishing.
I'm on a mission.
I'm on a mission.
It's so pretty, I'd sure hate to miss this chance. We'll find us a shady spot, not too cool, not too hot. Perfect for a little fishing and romance. Let's go fishing.
Let's go fishing.
I got a pole.
I'm on a mission.
It's so pretty, I'd sure hate to waste this chance. We'll find us a shady little spot, not too cool.
Eh ben dis donc, ça rigole ici, c'est bien. Vous êtes de retour dans la matinale infernale. J'en profite pour dire merci à Graphite et aux bibliothèques de Compiègne d'avoir permis que nous puissions créer cette émission tous ensemble. Les chroniques s'enchaînent mais ne se ressemblent pas, un peu comme les lettres que nous déroule Liam à propos de la communauté LGBT.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reprend notre alphabet. 1, 2, 3, alphabet. Il y a tellement à dire en même temps sur la communauté LGBTQ+. Je voudrais commencer en parlant des transgenres. des cisgenres. De
pas encore, pas encore. Ce sera bientôt les transgenres.
De qui s'agit-il? Ce sont les personnes qui se mettent bien, qui se sentent bien dans leur corps de naissance. Je veux dire qu'ils sont à l'aise avec leur genre et leur sexe, qui sont deux choses différentes. Le sexe, c'est le corps, entre guillemets, et le genre, c'est comme... C'est comme vous vous sentez par rapport à votre sexe. Par exemple, vous naissez dans un corps de garçon et vous vous sentez garçon, votre sexe et votre genre sont alignés. On peut donc dire que vous êtes cisgenre.
Attends Liam, du coup si je comprends bien, pour être sûr que ce soit clair pour moi et que ce soit bien clair pour nos auditeurs, par exemple, moi je suis une femme dans un corps de femme et je me sens bien en tant que femme. Donc on peut dire que moi, Aurore, je suis cisgenre ?
Exactement.
Ok, c'est clair, merci.
Mais vous voulez me dire, mais je vois pas le rapport avec la communauté LGBTQ+. Bon, ça va nous servir pour les suites, ça vient. Dans cet alphabet de communauté, abordons le T. T comme transgenre. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son corps au niveau du genre. Je vais prendre mon propre exemple, puisqu'Aurore vient de prendre le sien. Moi, par exemple, j'ai un corps de femme, mais je me sens garçon. Il m'arrive même de faire des dysphories. Une dysphorie, c'est quand une personne transgenre a le désir de vouloir avoir le corps de son genre. Elle souhaite changer de sexe pour se sentir plus alignée. Les dysphories de genre peuvent entraîner du stress, de la dépression ou une irritabilité certaine. Excusez-moi, je bégaye un peu avec sur ce mot, je suis pas à l'aise. Pour calmer ça, il y a des petits remèdes, heureusement. Pour les hommes transgenres, par exemple, donc je veux dire par là, les personnes dont l'identité et le genre est masculine et que leur genre qui lui était assigné à la naissance de base et l'apparence de son sexe est féminin. Donc, pour les hommes transgenres, comme moi, par exemple, on peut atténuer la poitrine avec des bandages, mais il faut faire attention à ne pas trop les serrer. Bien sûr, ça pourrait comprimer trop la cage thoracique. Il y a aussi les binders, ce sont des sortes de petits hauts qui aplatissent la poitrine. Et pour les femmes transgenres, il y a possibilité de porter des perruques et soutien-gorge. Il existe aussi des opérations, mais pour les transgenres, pour tous les transgenres, n'ont pas besoin d'en passer par là pour se sentir mieux. Les transgenres peuvent aussi choisir leur nom et le changer. Ils peuvent aussi faire des transitions en prenant des hormones masculines ou féminines, en fonction de leurs besoins. Les hormones vont agir sur leur corps et au niveau de leur voix aussi. Inutile de préciser que de tels changements prennent du temps. Fait intéressant à savoir, la première femme transgenre était Lily Elbe, née le 28 décembre 1992.
Non. 1800 ?
Oui, 1882, pardon. Elle est née le même jour que moi aussi. Et morte le 13 septembre 1931. Autant dire donc que ces crises identitaires ne datent pas d'hier. Le drapeau des personnes transgenres est composé de 5 bandes horizontales. La première et la dernière sont bleues, la deuxième et la quatrième sont roses, puis celle du milieu est blanche. Voilà pour les transgenres.
Eh ben dis donc, voilà tout l'intérêt d'écouter ce que notre corps a à nous dire. Et Camille, toi aussi tu prends soin de toi, non ?
Oui, bien sûr, mais de vous surtout. Ah. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous emmène en Asie, et plus particulièrement à Okinawa. Okinawa, cette petite île principale de l'archipel Okinawa qui se trouve au sud du Japon. Alors, vous allez me demander pourquoi parler d'Okinawa ? Eh bien, c'est très simple. Cette île a la particularité de compter le plus grand nombre de centenaires. Et cela, bien sûr, est dû à leur régime alimentaire. Cette longévité, est liée en grande partie à leur consommation, à leur alimentation et à leur mode de vie. Nous allons donc nous intéresser à ce régime. Alors, quelles sont les caractéristiques du régime Okinawa ? Le caractère essentiel de cette alimentation est dû à l'apport riche en micronutriments et en oméga-3. C'est d'ailleurs, si vous avez bien suivi l'ensemble des chroniques, ce qui favorise la santé et la longévité. Micronutriments, oméga-3, qu'est-ce donc ? Eh bien, les micronutriments renvoient aux vitamines, aux minéraux et aux oligo-éléments. Et les oméga-3, dont on a déjà parlé, sont les acides gras essentiels, essentiellement présents dans le poisson, comme le saumon, les avocats, les fruits secs. Et donc, ce régime se présente comme un régime riche en légumes, en fruits et en poissons gras. Donc, commencer le régime Okinawa, c'est consommer des légumes à volonté, autrement dit des aliments à densité énergétique très faible, et consommer avec modération des aliments dont la densité énergétique est moyenne, c'est-à-dire les protéines. Et bien sûr, en petite quantité, les aliments à densité très grande, comme les glucides, nos chers glucides. Enfin, donc, consommer des aliments à basse et très basse densité énergétique, c'est-à-dire à faible calorie, permet de manger moins. Cela est dû, bien sûr, à la teneur très élevée en eau et en fibres des légumes, n'est-ce pas ? Et bien sûr, vous savez que les protéines sont très rassasiantes, ce qui fait qu'on mange forcément beaucoup moins puisqu'on est rassasié. Donc, cette restriction calorique, elle va permettre une consommation d'aliments à densité basse très basse, ce qui va engendrer pour notre corps une baisse des déchets métaboliques, notamment ces fameux radicaux libres. Ces radicaux libres qui sont en fait les petites usines qui se situent à l'intérieur de nos cellules et qui détériorent les mitochondries. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les radicaux libres, ça n'est pas très bon pour nous. Donc, en ayant une alimentation semi-végétarienne, comme le régime Okinawa, on diminue les matières grasses et nous retrouvons avec un régime avec une restriction calorique assez basse, sans forcément compter les calories. Donc, la population d'Okinawa a aussi cette particularité, c'est de manger en conscience. En conscience. Eh bien, en conscience, cela sous-entend d'être présent lors de son repas, de prendre conscience de l'instant présent, de tout ce qui se joue. Donc, ces fameux Asiatiques, hein, je ne sais plus comment on les appelle, les gens d'Okinawa.
Donc, les Japonais, non ?
Ah oui, tout simplement, les Japonais. Mais quelle évidence ! Merci Aurore de ta lumière.
J'essaie de suivre.
Et donc, les Japonais ont cette conscience de manger en pleine conscience. Donc, manger en pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est dans un premier temps, face à son plat, observer les formes, les couleurs qui se trouvent dans notre assiette. Dans un deuxième temps, c'est vrai qu'ils ont tendance à manger avec les doigts. Et ce contact tactile avec les aliments, c'est très important aussi. Ça nous donne un avant-goût de la texture des aliments qui vont se retrouver dans notre bouche. Enfin, on propose ensuite de sentir, humer vos aliments, sentez les différents aliments qui se trouvent dans votre assiette, qui peuvent évoquer une image ou un souvenir, ou même y associer dans le futur un nouveau souvenir. Et enfin, l'observer avec votre vue, avec les couleurs, etc. Donc cet ensemble de prise de conscience, puisqu'il s'agit de manger en conscience, avec l'ouïe, l'odorat et le toucher, sans oublier le goûter, bien sûr, on y arrive, croquer dans cette bouchée qui s'offre à vous et laissez fondre, laissez craquer sous vos dents, sous la langue. Saisissez enfin toutes les nuances de saveurs qui peuvent se retrouver sur la langue, sous la langue, sur les côtés, etc. Et enfin, prenez le temps de mastiquer lentement et longuement. Ainsi, vous prendrez conscience de toutes les saveurs qui vont exploser dans votre bouche. Et puis vient le moment fatal de faire passer la nourriture dans l'œsophage. Donc vous pouvez aussi, à ce moment-là, suivre le cheminement de l'aliment dans l'œsophage et pourquoi pas jusqu'aux intestins. C'est vrai qu'il faut être très sensible à tout cela. Alors vous allez me dire, waouh, un repas comme ça, ça va nous prendre des heures. C'est possible. Néanmoins, ce que je vous propose, c'est de rompre avec toutes ces mauvaises habitudes que nous avons tous pris, hein, manger devant la télé, lire en même temps, et prendre la pleine conscience. Enfin, ça, c'est prendre conscience de ce qu'on mange au moment du repas et être totalement disponible. C'est en effet en ayant conscience de ce que l'on mange que la satiété arrive plus vite. Le cerveau étant totalement concentré sur ce qu'il fait, la satiété arrive beaucoup plus vite. C'est logique. Et puis, pour conclure sur cette troisième chronique alimentaire, l'importance qu'on retrouve dans ce régime, le point essentiel qu'on a retrouvé, je trouve, dans la plupart des conseils que j'ai pu vous apporter durant les précédentes chroniques, c'est vraiment de réduire l'apport en glucides. Voilà, voilà, je vous souhaite une très très belle journée et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre estomac.
Merci Camille de nous faire espérer devenir centenaire grâce à notre alimentation, ça me plairait bien. On va terminer cette matinale infernale avec Ben et sa chronique musique et j'ai envie de te demander Ben, quand nous emmènes-tu aujourd'hui ?
Pas très loin. Salut à tous. Ce matin, je vous emmène à la fin des années 50, car elle sonne le glas du blues rock américain. Et pour cause. Ouais, entre 54 et 55, le jeune Elvis Presley enchaîne les tubes sur le label Sun Records de Sam Phillips, puis sur RCA en 1956, de Heartbreak Hotel, en passant par Hound Dog, le King Explode. Cette même année, il passe dans un show télévisé américain et propose son fameux déhanché jugé trop sexuel par l'Amérique puritaine des années 50. Il deviendra Elvis the Pelvis, bassin en anglais. Un animateur de radio américaine lancera même un auto-da-fé des 45 tours du King. Auto-da-fé, c'est le fait de brûler sur la place publique certains objets. Bref, donc de ces 45 tours sur la place publique, Burn Baby Burn. C'en est trop pour lui. En 1958, il plaque tout et part faire son service militaire en Allemagne. Il ne reviendra qu'en 68 sur scène. Ah, et ouais, j'ai oublié de vous dire sur Chuck Berry la dernière fois. Vous savez, le poète du rock, il n'est pas clean. Au cours d'une tournée 1959, il rencontre une jeune fille apache de seulement 14 ans. L'adolescente tomberait dingue du rocker, mais les intentions de celui-ci ne sont pas aussi belles. Il la ramène du Texas et lui fait faire des passes dans son club du Missouri. Classe! Après une série de jugements et d'appels, procédure dans laquelle il se dit publiquement discriminé, Chuck repart à la casse-prison en 1961 pour 18 mois. Les Américains pousseront donc le rock à l'océan. Mais heureusement, le bougre s'est bien nagé. Au début des années 60, les Britanniques sont prêts à adopter la rock attitude. Le boogie-woogie et le blues sont déjà en place depuis les années 50. Les films américains ont déjà séduit les Anglais. Graines de violence en 1955 et Rock Around the Clock en 56 avec le fameux tube de Bill Haley et les Comets. Ainsi, les Beatles feront vibrer les oreilles de la reine Elizabeth II de 1960 à 1970, qu'elle remerciera en les décorant pour leurs efforts artistiques. God save the Queen.
Ah, cette chère Elizabeth, quelle ténacité, hein. Mais notre émission se termine ici pour ce matin. Merci à tous mes chroniqueurs amateurs pour cette belle énergie. Naël, Fred, Ben, Liam, Camille, Aimé. C'était un plaisir de vous avoir. J'invite les auditeurs qui auraient envie de réagir sur les choses qui ont été dites ce matin à m'envoyer un DM sur mon compte Insta @AYGBleu ou sur le Facebook de la radio ou le Insta de la radio, donc Radio Graphite. Likez la page d'ailleurs, il faut y aller. Toutes les remarques seront partagées avec toute l'équipe, bien sûr. Et on se quitte comme toujours en musique avec God Save the Queen, évidemment, des Sex Pistols.
À bientôt.